Bienvenue à cette édition de La vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous pour la prochaine heure. Il me fait plaisir d'entrée de jeu de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. On brise un peu la glace annuelle avec cette émission aujourd'hui. Donc, première, on l'espère, d'une belle série d'émissions qui s'en viendra au fil des prochaines semaines, des prochains mois. Et également, bien, comme le veut un peu la tradition, si on peut dire, eh bien, on va dédier ce retour à un regard sur l'année BD 2021, avec un regard tout particulier, évidemment, sur l'année BD québécoise 2021, puisque c'est un peu le cœur ici de notre démarche, de notre parcours, de notre travail. Alors, je présente un peu peut-être l'état des lieux de ce qu'on va faire au fil de l'émission. Donc, on va parler de 20 albums, donc 20 albums pour 2021. Donc, on va faire un peu des palmarès. Je n'aime pas vraiment l'idée des palmarès, mais il y a quand même une volonté d'ordonnancement. Alors, on va le faire. Donc, un top 11 pour la BD québécoise et 9 coups de cœur pour la bande dessinée internationale. Je mets une astérisque très, très grosse, d'ailleurs, pour la portion internationale et je le rappellerai quand on sera rendu là en fin d'émission. Mais je n'ai pas l'impression que j'ai lu suffisamment d'albums pour vraiment m'imposer comme un absolu, si on peut dire, dans la sélection que je vais vous proposer. Alors, c'est des BD que j'ai aimés, que j'ai appréciés pour différentes raisons, mais sur le plan international, c'est le genre de palmarès qui, au fil des prochaines semaines, des prochains mois, pourrait potentiellement bouger au fil d'autres lectures que je serai appelé à faire. Donc, on va plutôt percevoir ce top 9-là comme des propositions, des suggestions de lecture. Donc ça sera en fin d'émission et de façon générale, je vais aller avec peut-être les albums dont j'ai tout particulièrement envie de parler. Donc on va y aller plus dans ordre en ordre croissant, si on peut dire. Donc on va partir de mes meilleurs albums, de mes lectures préférées de l'année et aller en décroissance, donc du numéro 1 jusqu'au numéro 11 pour le Québec et du numéro 1 jusqu'au numéro 9 pour l'international. Donc ça devrait m'aider aussi dans ma gestion du temps, qui n'est pas nécessairement toujours facile dans ce genre d'exercice et dans un genre d'exercice qu'on fait de façon quand même assez improvisée par ailleurs. Alors donc, voilà pour les éléments d'entrée de jeu. Je mentionne également, mais quand on parle de la bande dessinée québécoise, on a quand même eu une chouette année, malgré évidemment la pandémie qui s'est poursuivie, qui a fait que la vaste majorité des événements BD ont dû être annulés ou ont dû être faits en contexte virtuel. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des gros rassemblements, tout au moins à Québec et d'autres rassemblements de belle envergure là, ailleurs au pays, voire à l'international. Donc, il y en a eu quelques-uns, mais ce n'est pas à la hauteur de ce que c'était avant. Donc, bref, j'ai hâte que ça reprenne, qu'on puisse recommencer à se voir dans le contexte de ces événements-là. Mais bref, je ferme cette parenthèse et on va plonger plutôt vers la production livresque, puisque c'est encore là le cœur de notre démarche. Alors, production livresque au Québec, quand même à peu près quoi, une centaine d'albums qui ont été publiés au fil de l'année. Donc, j'ai répertorié à tout le moins, donc presque une centaine, là, si on joue vraiment avec les chiffres. Et là-dessus, ben, je me suis donné la difficile charge d'en retenir 11, dont j'ai envie d'apposer, si on peut dire, mon sceau de suggestion. Pour ce que ça vaut, je rappelle que je suis purement un lecteur de bande dessinée. Comme vous toutes et tous, je n'ai pas de prétention d'être une référence ou d'être un point d'expertise particulier. Mais par contre, comme je le fais à chaque semaine depuis plus d'une décennie, ça me fait toujours plaisir de vous partager des lectures et de discuter de ces lectures avec vous. Alors, toutes les parenthèses sont fermées et on va plonger peut-être là, justement dans le top 11 québécois. Alors, je commence, et comme je l'avais dit, on y va à rebours. Donc, je commence avec ma bande dessinée québécoise de l'année. Et c'est souvent le moment où j'ai envie de remercier aussi les auteurs qui nous ont offert ces albums-là. Vraiment, j'ai eu des très, très belles lectures et c'est en majeure, en entière partie grâce à eux et grâce à elles. Et pour ma BD de l'année, ben, clairement, c'est Le Petit Astronaute de Jean-Paul Hyde du côté des éditions La Pastèque. Une bande dessinée dont je vous ai parlé amplement au fil d'entrevues et de rencontres et de discussions. Une bande dessinée que nous a offert Hyde après quelques années de pause, depuis La Femme aux cartes postales, qui avait été aussi un moment marquant de son année de publication, après donc sa bande dessinée de Jérôme Bigras là, autour du trou. qui avait été aussi une lecture marquante à l'époque. Donc, il va vraiment de lecture marquante en lecture marquante pour moi. Et avec Le Petit Astronaute, bien, c'est une lecture aussi très émotive, mais de la bonne émotion, de l'émotion riche. C'est pas larmoyant, évidemment, donc c'est sincère. En fait, c'est empreint d'une grande, d'une belle sincérité. Et avec Le Petit Astronaute, Ede nous offre évidemment son album qui est peut-être le plus personnel, puisqu'il est en partie inspiré de faits vécus et en partie inspiré également de sa réalité à lui, de sa réalité de père, de sa réalité de père d'un enfant différent, d'un enfant qui est atteint de paralysie cérébrale et qui l'accompagne aux côtés de sa famille, donc au fil de sa vie, en essayant de l'amener à prendre contact avec les autres, à prendre contact avec ce qui l'entoure et à se développer au contact de tout ça. Et évidemment, bien, comme c'est jamais un don linéaire, en fait, c'est pas seulement nous qui apportons à lui et ce qui l'entoure qui lui apporte, mais lui également apporte à tout ça aussi. Et donc, on nous amène dans cette trame qu'on tisse à travers, et ça, c'est un beau parti pris aussi que l'auteur avait pris, à travers donc le regard de la sœur de cet enfant qui, elle aussi, a développé ses connexions avec son frère, a tenté à tout le moins de le faire, et redécouvre un peu des passages de son enfance à travers la visite, en mode visite libre, de son appartement d'enfance, justement, donc qui lui permet de reconnecter avec ses différents souvenirs. Donc, c'est une bande dessinée qui est pas qui est solide dans sa mise en scène, qui n'essaie pas de réinventer la manière de faire la bande dessinée, mais qui essaie plutôt de très, très, très bien faire la bande dessinée. Alors, c'est vraiment maîtrisé d'un point de vue du récit. Quand on va d'épisode en épisode, quand la toile de cet enfant se tisse là et la façon dont on choisit justement avec la visite de l'appartement, bien, évite de tomber dans un rapport épisodique un peu qui nous déconnecte peut-être un peu. Donc, on reste connecté d'un épisode à l'autre, où on s'identifie aux différents personnages, aux réalités, où on comprend, où on apprend aussi sur ces différentes réalités-là, sur le fait d'élever un enfant dans une situation comme celle-là, donc en situation de paralysie cérébrale, dans des épisodes comme une visite à la garderie, comment ça se passe, c'est quelle dynamique, les défis évidemment d'en trouver une aussi, comment ça se passe à l'école, etc., etc. Donc, c'est un point de contact, un point d'ancrage avec cette réalité-là qui est en soi déjà très intéressant, mais en plus avec l'aspect humain, avec la sincérité qui ressort de cet album-là, qui vient vraiment venir nous chercher sur l'aspect émotif aussi. Donc, on a vraiment quelque chose qui est entier, une BD qui est complète, qui est entière. Donc, bref, vraiment un gros, gros coup de cœur pour cet album de Jean-Paul Ede. Et c'est clairement, donc je le répète là, de mon côté, la bande dessinée québécoise de l'année. Si on y va en deuxième place, et encore là, je m'amuse à faire un top 10, un top 11, mais ça vaut ce que ça vaut. À un certain moment, là, les places peuvent s'échanger entre les unes et les autres, mais je vais quand même m'amuser, si on peut dire, donc à les numéroter. Donc, en deuxième place dans ma sélection BD 2021, eh bien, je crois que ce serait le Mégantic, Un train dans la nuit de Christian Quesnel et Anne-Marie Saint-Cerny. Christian Quesnel qui vraiment, dans le fond, explose un peu dans ma sphère de lecture au fil des dernières années, tout particulièrement avec Vous avez détruit la beauté du monde, ce magnifique, et difficile et riche album sur l'histoire du suicide au Québec, et qui nous revient avec une démarche d'enquête, une démarche documentaire, une démarche presque sociologique aussi à certains égards, donc avec Mégantic, où on va s'intéresser à ce qui s'est passé avant et pendant donc cette catastrophe ferroviaire, ce train, on s'en rappelle, ça nous a tous marqués à différents égards, ces images de l'explosion au cœur de la nuit de ce train dans la ville de Mégantic. Et donc, on revient un peu sur ces événements-là et ensuite, on voit aussi sur ce qui s'est passé après et sur comment, d'un côté, ça a influé le redéveloppement de ce centre-ville-là et de l'autre côté, comment les gens ont été un peu dépossédés à la limite d'une explication, dépossédés un peu d'une compensation aussi d'une certaine façon. Donc, un côté très engagé aussi dans cette lecture-là, mais surtout, profondément humain encore là. C'est une expérience difficile que Quesnel choisit de nous amener en bande dessinée et il le fait avec une belle, belle richesse, avec un beau, beau doigté. Donc, il a été sur place, il a rencontré des gens qui ont vécu ces événements-là On sent qu'il y a une volonté de respecter ceux qui ont vécu cette tragédie-là, cette catastrophe-là, de transmettre un peu leurs sentiments, leur vécu à travers justement l'expérience de cet album-là. Et il le fait avec la maîtrise visuelle dont il fait preuve d'album en album depuis déjà bien longtemps. Voilà, ça a été une lecture marquante, je pense, de mon côté. Je pense pour plusieurs d'ailleurs collègues aussi. C'est un album qui, un peu comme Le Petit Astronaute, se retrouve ça et là d'ailleurs dans différents palmarès et avec raison. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de croiser le chemin de cet album, c'est toujours possible de le faire. Je le rappelle, donc, ma deuxième BD cette année. Donc, Mégantic, un train dans la nuit, d'Anne-Marie Saint-Cerny, Christian Quesnel, c'est chez Écho Société. En troisième place, je vais aussi, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une dynamique de propos qui teinte peut-être un peu aussi mon année BD 2021, mais j'ai beaucoup aimé apprendre, j'ai beaucoup aimé que la BD m'offre la possibilité de me conscientiser par rapport à des enjeux sociaux, m'offre la possibilité de me positionner par rapport à cet enjeu-là et de comprendre comment, justement, je devais ou je pouvais me positionner face à tout ça. Et je pense qu'un très bon exemple de cette tangente documentaire aux côtés d'autres titres dont on a parlé, eh bien, c'est Le Québec qui est né dans mon pays, d'Emmanuel Dufour, également chez Éco-Société, qui décidément commence à se trouver une belle ligne éditoriale, d'ailleurs, dans son volet BD. Donc, c'est Le Québec qui est né dans mon pays, on s'en souvient. Donc, c'est d'abord un projet d'études en ethnologie, qui est devenu un projet de BD, qui est devenu un projet d'études, si on peut dire. Donc, je simplifie vertement, là, mais il y a un peu un côté circulaire là-dedans. Et donc, dans l'idée, justement, de réfléchir aux assises de cette difficulté qu'on peut avoir peut-être à entrer en dialogue avec l'autre, avec ceux qui étaient ici avant qu'on arrive. Et on entend ici le « on comme peuple » au sens très, très large, mais donc les Premières Nations. Un dialogue qui semble se construire tranquillement, qui semble se replacer tranquillement et fort heureusement d'ailleurs, puisque c'est un dialogue qui est nécessaire, je pense, et pas uniquement du côté des Premières Nations, mais qui est nécessaire pour tous. Je pense, je me rappelle d'ailleurs de certains essais où, à un moment donné, on abordait l'idée que l'idée faussée, dans le fond, les deux peuples fondateurs du Canada, alors qu'une panoplie d'autres peuples qu'on oublie, dont on passe sous silence peut-être l'héritage et la part, et qui limite, parce que justement, on avait trop tendance à les oublier, mais qui limite justement la part qu'ils ont eue sur la construction de notre identité canadienne, de notre identité québécoise également, qui reste quand même une identité qui est bâtie de façon commune, avec des particularités, évidemment, par la suite, mais il y a cet apport-là qui est nécessaire, et donc qui fait que ce dialogue-là est nécessaire pour tout le monde, je pense, et de se réapproprier, de leur redonner l'espace qu'ils méritent, en fait, qu'ils doivent avoir dans notre culture collective aussi. Donc, bref, je suis très maladroit, j'en suis certain dans la façon dont j'en parle, mais tout ça pour dire que pour moi, c'est une BD qui est arrivée vraiment à point nommé et qui a permis peut-être de mettre le doigt sur certains enjeux, sur certaines réalités, sur certaines problématiques, sur certaines manières de réfléchir un peu à notre position face à ça, à leur position face à ça aussi. Donc, dans le contexte d'un récit choral, Emmanuel Dufour, l'autrice, rencontre une cinquantaine de personnes, elle nous partage des témoignages, des réflexions qu'elle a évidemment développées avec eux, qu'elle a validées avec eux, donc dans une approche très collaborative, et tout ça à travers différentes approches visuelles aussi. Dans le contexte d'un premier album, donc on s'entend que ce n'est pas toujours parfaitement maîtrisé, mais quand même d'en arriver avec ça comme premier album, moi je trouve ça hallucinant aussi. Et donc, où on métisse à la fois des portraits, donc des images simples qui nous permettent simplement de voir de qui l'on parle, qui est cet individu-là, et de lui donner un visuel, et que ce ne soit pas simplement des mots qu'il porte, mais que ce soit une personne qui porte ces mots-là. En parallèle, on utilise la BD aussi pour des soins documentaires, donc pour nous raconter, nous présenter un peu ce qui se passe, ce qui s'est passé, des mises en contexte historique et autres, donc pour sa capacité à simplifier les choses. Et enfin, on intègre aussi des images peut-être un peu plus abstraites qui nous amènent justement dans un contexte où on s'imprègne d'une ambiance, d'une certaine réalité. Troisième BD pour mon top 11, c'est Le Québec qui est né dans mon pays, d'Emmanuel Dufour, chez Éco-Société. On passe en quatrième place avec Football Fantasy de Ziane aux éditions Pampau. C'est une BD dont j'ai l'impression de ne pas avoir encore tout absorbé ce qui nous est livré entre la profondeur et le délire, et la profondeur du délire et la richesse de l'ensemble. C'est quelque chose d'assez décontenançant. C'est une expérience à laquelle nous invite Ziane, une expérience qui mérite largement qu'on accepte de s'y rendre. Donc, je ne sais pas exactement d'où l'idée est venue de ça. Je ne sais pas exactement où je me positionne face à ce livre-là encore, mais j'ai l'impression que c'est le genre d'album qui va gagner aussi de lecture en lecture. Mais déjà, après une, deux lectures de ça, on sait que ça va être un album marquant pour 2021. Ça va être quelque chose qui va ressortir. Donc, une histoire un peu abracadabrante où on passe d'un récit plus intime, plus personnel, en fait, entre guillemets personnel, mais d'une jeune fille qui se retrouve dans un laboratoire à quelque part dans la République de Banane et qui doit tenter, qui va chercher à s'en sauver, à s'en tirer parce que c'est en train de tourner au vinaigre. On nous raconte évidemment l'histoire de ces recherches-là pour comprendre ce laboratoire-là et comment on s'est retrouvé dans cette situation-là. Et ça, sous beaucoup plus large de la scène politique canadienne des réalités, des joutes politiques qui se font entre les différentes provinces, entre les différents partis et avec Banane qui est une province bien particulière avec son identité et son langage et qui nous amène aussi avec, ma foi, des lancers verbales semi-compréhensibles, disons-le comme ça, j'ai presque envie de les lire comme la charge de L'Orignal est formidable de Gauvreau. Il y a quelque chose d'amusant dans ce jeu de sonorité, de mots qu'on met là parce qu'ils évoquent peut-être ou par le son qu'ils font, par les jeux langagés. Donc, bref, il y a beaucoup d'éléments là-dedans et je trouve, mon Dieu, quelle richesse et quel beau retour aussi pour Ziane après donc avoir pris une pause de grosses publications, disons-le plutôt comme ça, pour s'attarder vraiment sur son La Jeune, son projet d'autopublication dont on a eu d'ailleurs au fil de 2021 le point d'orgue aux éditions Pau-Pau, qui était fort sympathique. Mais là, donc, vraiment un retour à la BD plus classique pour Ziane, mais en autant qu'on puisse parler de BD plus classique dans le cas de Ziane. Vraiment, là, quelque chose de très intéressant qu'elle nous a proposé, que d'entrée de jeu, je mets en quatrième place de mon top 11 québécois pour 2021. Et on termine le top 5 avec « Vers la tempête » de Jean-Sébastien Bérubé chez Futuropolis. Un album, on parlait tantôt quand on jasait du petit astronaute, qui est empreinte de sincérité, qui était très personnel. Et bien, je pense que c'est encore le cas avec « Vers la tempête ». Un pendant qui nous amène un peu dans la suite de « C'est comme ça que je ne suis pas devenu moine » que Bérubé avait offert il y a un certain temps. Donc, c'est vraiment un album, d'ailleurs, dont je recommanderais la lecture peut-être un peu côte à côte, si le temps vous le permet, parce que l'un explique l'autre aussi d'une certaine façon. Et dans « C'est comme ça que je ne suis pas devenu moine », on voit une volonté de fuite, si on peut dire, d'une certaine réalité à travers une certaine religiosité, si on peut dire, et bon, les décisions qui sont associées à ça. Et dans « Vers la tempête », ben, on retourne dans le fond dans le contexte que cherchait justement à fuir Bérubé quand il avait choisi d'aller en Inde, d'aller au Tibet, d'aller dans cette région du monde. Et donc, dans « Vers la tempête », on le voit être obligé de se confronter justement à cette réalité-là, à ce contexte-là qui semble être tout sauf facile, qui semble être tout sauf aisé, à cause de son mal-être à lui, à cause de ses relations complexes avec son père, avec son grand-père, à cause de leur mal-être à eux, assurément aussi, à cause de ses relations familiales, de la dynamique qu'il peut avoir aussi avec sa mère. Bref, il y a beaucoup de choses là-dedans et Bérubé nous les livre à cœur ouvert. Je reviens avec le mot sincérité, mais c'est important. Quand on se retrouve dans un contexte de récit comme celui-là, qui est aussi personnel, quand on sent cette sincérité-là, bien, on embarque encore plus, on plonge encore plus dans ce qui nous est offert, on reçoit encore mieux ce qui nous est proposé, ce qui nous est présenté. Et ce qui nous est proposé et présenté dans « Vers la tempête », bien, c'est très bon, c'est très solide, c'est très pertinent et c'est émouvant également. Donc, un album qui se bâtit vraiment comme un double crescendo. Donc, d'un côté, sur les arts martiaux, qui sont également donc un cœur pour ce récit de Bérubé, donc où il va renouer, si on peut dire, avec les arts martiaux, où il va tenter d'avancer, d'obtenir les niveaux les plus avancés dans une forme d'arts martiaux qui est quand même assez difficile physiquement, moralement. Et on va le voir donc s'entraîner, se préparer pour éventuellement passer l'examen final. Et un examen final qui va se juxtaposer à une tragédie personnelle, disons-le comme ça, donc qui, elle aussi, va d'une certaine façon se construire au fil des dialogues, mais va aussi recevoir de l'autre crescendo, qui est celui où Bérubé identifie qu'il y a un problème, qu'il y a un problème de gestion des émotions, qu'il y a un problème de colère, et qu'il doit se confronter à lui-même, si on peut dire, et donc qui choisit d'aller chercher de l'aide, qui va au CIUS de sa région, qui obtient un suivi psychologique, et on le voit se questionner, discuter, échanger, ouvrir la porte à des difficultés, à des défis personnels qu'il a ressentis au fil du temps, et les adresser aussi. Et donc, on a le crescendo physique, si on peut dire, avec les arts martiaux, le crescendo émotif, psychologique, avec l'intervention, et à travers ça, bien, la trame familiale et la trame amicale aussi, et on voit un peu à travers tout ça, bien, comment lui réussit à ajuster, comment lui réussit à s'améliorer et comment lui en arrive au point où, quand on arrive au moment tragique, à l'explosion, si on peut dire, de cette trame familiale, là, ben, de quelle manière, grâce justement à ces différents progrès qu'il s'est donné le droit de faire, mais comment il est capable maintenant d'affronter cette réalité-là et de prendre des décisions qu'il doit prendre et de faire les choses qu'il doit faire parce qu'il s'est donné le luxe justement d'aller chercher de l'aide, du soutien pour en arriver à ce point-là. Il y a peu aussi de bandes dessinées, j'ai l'impression, qui s'intéressent à la notion de thérapie, d'autant la thérapie masculine, la thérapie sur les enjeux de violence, sur les enjeux de colère. Et je trouve que c'est une belle représentation de ça. Et vraiment, je reviens avec la sincérité, mais ça me scie cette capacité, cette volonté-là de partage que peut avoir un auteur. Et j'ai presque envie de dire de se mettre à nu. Je ne sais pas exactement dans quelle mesure, parce que je ne connais pas Bérubé personnellement, mais la sincérité à travers laquelle il nous transmet cette BD nous donne véritablement aussi l'impression de cette mise à nu, mais sans se sentir voyeur, plus en se sentant compagnon de route. Et c'est le genre de BD qui, selon notre réalité, notre parcours, peut aussi agir comme confrontation, peut aussi nous faire questionner certaines réactions qu'on a pu avoir. Et le reste. Donc, bref, encore là, un album qui est très, très riche, à mon sens, et résolument là, qui mérite sa place au top 5 2021, donc Vers la tempête de Jean-Sébastien Bérubé. C'est chez Futuropolis. Alors, on sort du top 5 et on s'en va vers la balance du top 11. Et en sixième place, j'ai mis une première BD et sincèrement, cette BD-là est arrivée pour moi absolument de nulle part. Je ne savais pas à quoi m'attendre de façon particulière, outre le fait que l'album est dur physiquement à tenir. Je n'ai pas aimé tenir cet album-là. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose dans le format papier, le reste que je trouvais un peu plus ardu. Mais bref, nonobstant cette petite difficulté personnelle sans importance, j'ai découvert là un très, très bel album qui m'a largement surpris. Et qui m'a surpris, je dirais, d'abord et avant tout pour l'ambiance qu'il en ressort au-delà du récit lui-même, des couleurs en noir et blanc très saturées, un beau noir et blanc d'ailleurs, mais saturé, mais avec un côté aussi un peu cauchemardesque qui en ressort. Donc bref, une ambiance très particulière. Ça s'appelle Bang Bang Bang, le crépuscule des amochés. Et vraiment, en fait, ça nous amène, au bout du compte, c'est un ancien boxeur qui doit rembourser des dettes, dans le fond, des dettes d'alcool ou autres, et qui, dans le fond, se retrouve dans une situation où il doit faire un braquage. Et donc, c'est un braquage qui nous amène donc dans l'ambiance d'un polar. Donc, c'est un boxeur un peu archétypal, si on peut dire, qui a perdu son dernier combat, qui souffre un peu sans savoir d'une commotion cérébrale, qui, après cet accident-là, donc se retrouve dans le braquage, se retrouve dans un braquage qui, comme de fait, dans le fond, vire très, très mal. Ça se passe pas bien. Finalement, c'est littéralement la catastrophe pour les participants. Ils volent rien de spécifique, ou en fait, je ne dévoilerai pas ce qu'ils volent exactement. Presque tout le monde meurt. En fait, c'est essentiellement ce boxeur-là qui se retrouve à être le seul survivant de ce braquage-là, qui se sauve, qui va se cacher, qui a l'impression que les policiers le pourchassent toujours et qui tranquillement l'amène à un, j'aurais presque envie de dire, là, et, là, peut-être que je surinterprète un peu, mais on aura l'occasion de replonger assurément, là, mais dans un point de rupture avec une certaine réalité aussi, un emprisonnement personnel peut-être, d'une certaine façon, qui en ressort plus que l'emprisonnement physique qu'il aurait eu s'il s'était fait prendre. Vraiment une BD particulière sur laquelle je suis bien content d'être tombé. Et je le redis, ne serait-ce que pour les ambiances, ne serait-ce que pour le dessin, le découpage, par la façon par laquelle l'auteur Étienne Prudhomme réussit à nous entrer, si on peut dire, dans cette proposition-là. Là, vraiment, c'est une BD qui mérite le détour. Vraiment un point particulier de 2021 pour moi. Ce bang, 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 le crépuscule des amochés d'Étienne Prudhomme, qui arrive donc en sixième place. On tombe maintenant dans la septième position de ce petit palmarès. Position qui revient à René Lévesque, quelque chose comme un grand homme, cet album collectif piloté par Marc Tessier. Du côté de Moelle Graphique, René Lévesque, qui est un personnage emblématique et un personnage incontournable, évidemment, de l'histoire québécoise, l'histoire sociale, l'histoire politique, il reste. Et c'est un personnage qui a eu, évidemment, moult biographie, mais qui n'avait pas encore eu de bande dessinée. Alors évidemment, j'imagine qu'à un certain point, on s'est dit, ben pourquoi pas une BD sur Lévesque, sur cet homme qui est déjà en lui-même un personnage emblématique. En fait, tout le monde, ou j'en sais que la plupart des gens connaissent René Lévesque, ont une image de René Lévesque dans leur tête, dans leur esprit. Mais à quel point, au-delà de cette image-là, est-ce qu'on le connaît? Et à quel point, si on connaît certains jalons de son histoire politique, bien, on connaît la balance de son histoire personnelle. Donc, c'est un peu, je dirais, les questions qu'on pourrait se lancer d'entrée de jeu quand on plonge dans René Lévesque, parce qu'on sera invité à justement le connaître par une sélection d'épisodes. Donc, Marc Tessier en a choisi 13, des épisodes qui, pour lui, dans le fond, viennent tisser. Donc, la nature même de Lévesque dans ses bons et ses mauvais côtés, dans des événements qui l'ont marqué dans sa montée vers l'impact qu'il aura sur l'histoire politique québécoise, dans son déclin politique, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, d'épisodes qui sont connus, qui sont incontournables, évidemment, et qui sont largement documentés. On pense à la nuit des longs couteaux, jusqu'à des moments qui sont, au contraire, franchement moins connu, qu'on pense par exemple au travail documentaire qu'il avait fait à Auschwitz, qu'il avait fait dans la foulée de la Deuxième Guerre mondiale, et qui ont eu un impact, donc de sa vie plus personnelle, des épisodes plus intimes, un épisode plus intime avec son épouse. Donc bref, on va vraiment d'épisode en épisode et avec un regard qui est celui de Tessier, donc dans le choix des épisodes, dans le choix, dans la façon dont on les présente, et qui donne un certain investissement personnel. Dans le fond, on voit René Lévesque à travers le regard de quelqu'un qui s'est approprié ce personnage-là, qui a une admiration claire aussi pour cette personne-là et qui nous la transmet en collaboration avec 13 dessinateurs qui, eux, ont travaillé avec lui sur la mise en scène d'un épisode ou d'un autre épisode. Et donc, ce qui fait aussi... Et encore là, c'est toujours un peu le défi quand on y va avec quelque chose qui va, j'ai l'impression, sur une période temporelle qui est quand même assez large, de quelle manière on fait justement les jonctions d'un moment à l'autre, de quel moment on est capable, de quelle façon on est capable d'avoir un tout cohérent, mais d'avoir l'impression de lire en fait quand même une biographie qui ne nous fait pas sauter drastiquement ou trop violemment peut-être d'un épisode à l'autre. Et le parti pris de René Lévesque d'aller avec 13 dessinateurs et un scénariste, je le trouve intéressant parce que ben, il y a une logique dans le choix des épisodes, dans la façon dont on est capable de les imbriquer les uns avec les autres. Donc, on a l'impression quand même d'avoir un récit qui est constant, d'avoir une ligne qui est constante dans la vie de René Lévesque. Mais en même temps, le côté épisodique est aussi accentué. On va jusqu'au bout. On ne s'impose pas un même style, une même approche graphique. On y va avec des styles qui viennent servir un peu le moment qu'on souhaite raconter. Il y a une différence, par exemple, je parlais de Sophie Bédard qui raconte le moment personnel qui arrive à la fin et l'autre moment qui nous entraîne à Auschwitz, par exemple. Et c'est le cas entre différents autres épisodes aussi. Je trouve ça intéressant. Donc, on passe d'une ambiance à l'autre à travers, on nous tisse une toile à travers la vie de cette personne-là. J'ai trouvé vraiment l'exercice et l'approche intéressante et bien exploitée dans le contexte de ce collectif-là, qui pour moi, donc, s'est démarqué dans la production BD québécoise de 2021. Je le rappelle, ça s'appelle René Lévesque, quelque chose comme un grand homme, un collectif dirigé par Marc Tessier. C'est du côté des éditions Mouelle Graphique. Alors, on poursuit ce top 11 québécois. On est rendu à la 8e place. 8e place, et j'y vais avec une BD qui est arrivée du côté du Lombard. Il y en a quelques-unes, d'ailleurs, dans le top 11 dont je n'ai pas encore eu l'occasion de vous parler à l'émission, mais évidemment, je me rattraperai en cours de route. Donc, c'est de Jean-Louis Tripp et Cyril Doisneau. Ça s'appelle « Tu ne tueras point ». Donc, c'est un recueil de faits divers, essentiellement raconté donc par le journaliste Ondelat, un journaliste français qui racontait ces histoires-là à la radio. Et Tripp et Doisneau, ben, dans le fond, en font l'adaptation en BD. Et ben, ma foi, ça fonctionne bien. Dans le fond, on y va vraiment avec un récit, encore là, des courtes histoires, un format quand même assez direct où on ne s'intéresse pas tant à l'aspect judiciaire, le procès et le reste, on y va quand même assez rondement, mais dans lesquels on ancre, on place vraiment clairement les enjeux humains. On essaie de voir ou de nous présenter, dans le fond, différents contextes dans lesquels le meurtre, dans lesquels le pire crime, dans le fond, arrive, dans le pire crime se passe. Et ben, ça fonctionne bien, donc ça nous ramène un peu à l'humain, ça devient très confrontant. On se rend compte que c'est dans des contextes où, ben, pour X, Y, Z raison, on n'aurait pas nécessairement pensé que ce type de crime-là s'infiltrait dans ce type de milieu de vie-là. Et c'est raconté quand même assez clairement, dans le fond, à travers la narration. D'abord, d'Ondelat, adapté par Tripp. Ça fonctionne bien en BD. Je veux dire, le ton est là. On a l'impression d'avoir vraiment une lecture épisodique qui se lit très, très bien. C'était une de mes belles découvertes de fin d'année. Dans le fond, c'est un peu dans mes BD de rattrapage du temps des fêtes. Et j'étais bien content de passer un moment avec elle. Suffisamment content, toute évidence, pour la placer en 8e place de mon top 11 québécois. En 9e place, on va aller un peu vers la bande dessinée jeunesse. J'ai mis peu de BD jeunesse, au sens large d'ailleurs, là, c'est que, mettons, 14 ans et moins, là, parce que je me suis dit qu'on pourrait revenir là-dessus de manière plus globale ou plus générale la semaine prochaine. J'en reparlerai la semaine prochaine, donc de toute évidence. Mais je trouvais que Créature méritait largement d'avoir sa place dans ce palmarès-là. Une belle bande dessinée que nous offre JF. Deux tomes, d'ailleurs, qui ont été publiés au fil de 2021, donc le premier et le deuxième, de toute évidence. C'est scénarisé par Stéphane Bedbeder. Et ben, ça nous amène donc dans un Manhattan après la catastrophe. Après quelle catastrophe, on ne sait pas exactement. C'est ce qu'on découvre aussi au fil de l'album. Et on le découvre principalement à travers les yeux d'une bande de gamins, d'une bande de jeunes qui sont libres de l'influence d'une créature maléfique qui semble avoir, pour l'essentiel, zombifié les adultes. Et on découvre un peu cet univers-là avec eux. On est confronté aux différentes réalités avec eux à leur côté, donc dans le contexte d'une BD d'action qui fonctionne bien, qui est bien rythmée entre moments qui s'attendent un peu plus à la mythologie de la chose, des moments d'action, dans un contexte d'une palette de couleurs qui est quand même juste assez glauque aussi pour nous, si on peut dire, nous imprégner d'une certaine ambiance malaisante, mais sans trop. Aussi, ce que je disais, c'est d'abord pensé pour un public jeunesse. Ça a été publié d'abord dans le magazine Spirou également. Donc, ça donne un peu le ton. Et à l'image d'autres séries, je pense à celle, par exemple, je pense qu'on invite aussi tranquillement jeune public vers des récits à tendance thriller, à tendance horrifique, sans nécessairement aller de plein pied dans l'horreur. Mais on est dans le pourtour de celle-ci. Donc, c'est pas une BD qui va faire des cauchemars aux enfants. Mais c'est une BD qui peut servir de porte d'entrée vers des trucs qui éventuellement pourraient leur en faire peur, mais pas créature. Donc, je trouve intéressant d'offrir cette possibilité-là aux jeunes et de varier un peu, de sortir un peu de la BD d'aventure plus classique pour aller vers un autre type d'aventure et qui est bien monté, qui est bien ficelé avec une mythologie qui se révèle joyeusement. C'est de moins en moins un secret, donc je le dis, qui est aussi largement pompé de l'univers de Lovecraft, et ce qui fait que pour l'adulte, puisqu'on parle quand même de ton 11 adulte dans ce cas-ci, eh bien, ça s'insère aussi bien. Je veux dire, ça parle, ça titille notre fibre littéraire. Et donc, vraiment, ça a été des bonnes lectures. Et sincèrement, moi, après la publication du top 1, je me surprenais à aller piger dans les Spirou du garçon pour poursuivre un peu l'aventure avec JF et Stéphane Bedbeder, avec donc ce Créature tome 1, c'est chez Dargaud. Les deux dernières de mon top 11 québécois. Alors, on y va en 10e place avec Chronique de jeunesse de Guy Delisle aux éditions Pawpaw. Guy Delisle, pour moi, en fait, et ses chroniques, c'est un peu, j'ai une relation, je dirais particulière, disons-le comme ça, avec ce livre-là et avec cette approche que nous propose Delisle, dans la mesure où, pour moi, ben, dans le fond, et la BD, j'en lisais quand j'étais jeune, après une certaine époque, autour de secondaire, cégep, donc je me suis tranquillement distancé de la bande dessinée. Mes intérêts littéraires m'ont amené vers le roman de plein pied et éventuellement vers l'étude de la littérature aussi dans ses formats plus classiques, la littérature de l'Antiquité tout particulièrement. Et j'étais rendu très, très loin de la bande dessinée. Et à un moment donné, on m'a offert en cadeau les chroniques birmanes de Guy Delisle. Et comme beaucoup de gens, j'ai l'impression, si on a manqué certaines périodes dans les années 90, début 2000, eh bien, on a peut-être moins perçu cette arrivée sur le grand marché BD d'une autre bande dessinée, dans le fond, qui se distançait largement de ce qui nous était offert quand on était plus jeune, et éventuellement, ben, qui devient une porte d'entrée vers la découverte de la variété, de la richesse de ce médium-là. Et pour moi, Guy Delisle reste une formidable porte d'entrée justement pour amener des gens vers la bande dessinée. Pour moi, ça a été la porte d'entrée vers la bande dessinée. Et ces chroniques, pour moi, dans le fond, ont le poids, si on peut dire, de cet impact-là et l'impact de m'avoir amené à me questionner sur la forme, sur la manière de raconter, sur éventuellement la relecture de mes titres de jeunesse, mais à travers les yeux d'adultes, éventuellement vers l'émission. Donc bref, c'est un peu l'élément déclencheur. Et évidemment, les livres de Guy Delisle ont toujours été un peu plus marquants pour moi à cause peut-être de ce poids-là. Mais en même temps, c'est des livres qui, de façon générale et absolue, l'ont été marquants, je pense, pour plein de gens. Qu'on pense à Chronique de Jérusalem, qu'on pense à Pyongyang, tout particulièrement, ces deux chefs-d'œuvre. Chronique birmane, c'est excellent. Shenzhen, c'est excellent aussi. Donc bref, il y a un ensemble de chroniques avec son ton particulier, avec son approche de témoignage qui est très, très riche. Et je trouve que Chronique de jeunesse nous ramène un peu là-dedans. Oui, ce n'est pas aussi transcendant que ces chroniques à saveur internationale, mais j'ai trouvé ça très intéressant de retrouver ce ton-là de Delisle, de retrouver ce Delisle-là que j'avais apprécié, que j'avais aimé, qui m'avait ramené vers la bande dessinée. Et en plus de le retrouver, à raconter mon quartier où j'habite depuis plus d'une décennie, à raconter l'usine qui est à deux pas de chez moi, malheureusement, puisqu'elle est chargée d'odeurs et de nocivité partielle. Alors bref, mais de me retrouver dans le fond à travers le regard de Delisle, mais dans ce contexte-là, j'ai trouvé ça très intéressant. Et sincèrement, ça reste un beau récit BD, ça reste bien raconté, ça reste bien maîtrisé. On va à l'essentiel, où on maîtrise justement le médium, on maîtrise le format. Et c'est difficile de dire le contraire, d'autant avec toute la richesse de l'expérience de Delisle quand il se met au service d'un récit, d'un narratif. On le fait avec S'enfuir aussi dans un cadre moins personnel. Donc bref, c'est un grand auteur et c'est une bonne BD de ce grand auteur-là, à mon sens, qui mérite largement d'être lue, d'être découverte et avec un plus si vous habitez dans la région de Québec ou si vous y avez habité, et tout particulièrement dans le secteur Limoilou. Et on clôt le top 11 québécois avec Blanc et Poisson à pâte, une bande dessinée qu'on attend depuis aussi un certain temps. J'étais bien content de voir Blanc revenir à la BD. Je me demandais presque si 23 ans 72 était un moment. Je veux dire, cette BD, cette première BD que tout le monde a applaudi quand elle est arrivée. Et finalement, l'auteur ne nous avait pas offert de suite immédiate. Il nous est arrivé avec Poisson à pâte quelques années plus tard. Et je suis bien content qu'il se soit remis en parallèle de son emploi dans la production BD pour nous arriver avec cet ouvrage où il nous raconte l'histoire, dans le fond, d'un type qui ne se sent pas à sa place et psychologiquement et physiquement, on pourrait dire qu'il ne l'est pas nécessairement non plus. Il se distingue des gens avec qui il habite à plus d'un égard. Il se distingue des gens qu'il côtoie dans le village voisin. Il se sent seul. Il n'arrive pas à trouver qui il est, quelle est sa place dans ce monde-là, il a de la difficulté à rentrer en contact avec les autres et en même temps, il n'aime pas particulièrement les autres parce qu'il a très conscience aussi de leur faille à eux. Finalement, donc, au fil du récit, il va quand même avoir des relations qui vont se nouer, des gens avec qui il va être capable de parler, d'échanger. Il va avoir la possibilité d'un ailleurs qui va aussi tranquillement émerger, mais il va avoir aussi un côté tragique qui va tranquillement commencer à se mettre en place, qui nous annonce peut-être une fin pas nécessairement heureuse à cette histoire de quête de soi, de quête de sa place, qui est bien faite dans un monde médiéval ou d'inspiration médiévale. Donc, bref, c'est une BD assez particulière, bien chargée de thématiques, en belle continuité avec 23h72 aussi, où au bout du compte, on cherchait un peu sa place dans la dynamique de relation, dans une dynamique d'existence aussi. Donc, il y a quand même des thématiques qu'on peut s'amuser à mettre en parallèle. Le bref poisson à pâte de Blonde qui vient clair, donc notre top 11 Québec et qui y trouve joyeusement sa place. Et à l'image de Chronique de jeunesse, il est disponible aux éditions Pow Pow. Alors voilà donc pour le top 11 Québec. Donc rapidement, à titre de rappel, donc en première position, Le Petit Astronaute. Ensuite, Mégantique, Un train dans la nuit. C'est le Québec qui est né dans mon pays. Football, Fantasy, Vers la tempête, Bang, 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 René Lévesque, Quelque chose comme un grand homme, Tu ne seras point, Créature, tome 1 et tome 2, Chronique de jeunesse et Poisson à pâte. Alors, il nous reste à peu près une dizaine de minutes pour un top 9 international, donc vous comprendrez qu'on va aller quand même diablement plus rapide que pour l'autre. Et en même temps, ben, je redis un peu les éléments que j'ai mentionnés d'entrée de jeu en introduction à l'émission. Je me sens moins compétent cette année sur la BD internationale. Je parlais d'une centaine de BD québécois, j'en ai lu la vaste, vaste majorité. Pour ce qui est des BD internationales, on parle bon an, mal an, d'à peu près quoi, 5000 bandes dessinées. Je n'ai pas lu les 5000. Il y a des grands titres et des beaux titres que je n'ai pas encore eu l'occasion de croiser non plus. Ça viendra peut-être, je l'espère, pour moi et pour mon cœur de lecteur. Et donc, c'est d'apprendre avec beaucoup, beaucoup d'astérisques. Donc, j'y vais pas nécessairement dans un top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'y allais plutôt avec 9 albums qui, pour moi, ont été des bonnes lectures que j'ai faites cette année et qui pourraient potentiellement être bonifiés par d'autres lectures que je ferai au fil des prochaines semaines, des prochains mois. Mais c'est clair qu'en termes de BD qui se distinguent, et bien d'entrée de jeu, il y a des réflexions, j'ai l'impression, sur la méthode, sur le travail. Jour de sable, en fait, c'est Stéphane Gravel qui m'a incité fortement à lire cette BD-là. Oui, je peux comprendre. Donc, une BD d'Aimé de Young, Jour de sable, donc, chez Dargo, qui nous raconte... le parcours en fait d'un photographe new-yorkais de 22 ans qui éventuellement va se retrouver en Oklahoma, dans le nord de cette région-là, dans un no man's land. Et essentiellement, donc, il est chargé d'une mission photographique et doit montrer la vie dans cette région de ce qu'on appelle le Dust Bowl, donc une région qui est touchée par des grandes tempêtes de poussière. Et bien évidemment, au-delà de l'aspect documentaire sur cette réalité-là, de cet endroit, dans la Grande Dépression américaine des années 30, dans une région assez triste de l'Oklahoma. Et donc, on pourrait simplement nous contenter de nous amener dans le documentaire comme tel, mais au-delà de ça, on réfléchit aussi à la manière dont on le montre, une réflexion donc sur l'image du reportage, sur le travail photographique, sur la réalité de l'image, sur la réalité qui est cachée par l'image, la réalité dont on fait abstraction, sur la mise en scène, sur la manipulation de l'information, sur plein de réflexions qu'on peut avoir quand on fait un travail de démonstration comme celui-là. Donc, ça en fait une BD qui est absolument riche et qui s'est retrouvée d'ailleurs dans plusieurs palmarès de fin d'année et j'aurais tendance à le mettre en tête bien également. Donc, Jour de sable d'Aimé de Jung. Sinon, vous avez également René au bois dormant d'Hélène Usdin, qui s'est retrouvée d'ailleurs, je pense, en tête du palmarès de l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée. C'est chez Starbacane. Essentiellement, c'est l'histoire d'une quête d'identité, d'une quête de soi, dans le fond, un autochtone qui se fait donc essentiellement, enlever comme des milliers d'enfants pour se faire adopter par des familles blanches, qui va chercher sa place. Par la suite, il va peut-être manquer d'amour, il va se faire moquer, il va, bref, ne sera pas facile. Il va se réfugier aussi dans l'univers des rêves, dans un univers fantasmagorique absolument particulier. Et je veux dire, d'un point de vue visuel, cet album-là est hallucinant. En fait, je le souligne plusieurs fois, j'ai dit très fort pour que vous compreniez bien que c'est, ça se distingue, c'est graphiquement, là, je veux dire, c'est déroutant, c'est très coloré, on joue avec le réel, on a l'impression d'halluciner, je veux dire, c'est magnifique, c'est magnifique. À René au bois dormant, One Shot, donc d'Hélène Fusdine, c'est chez Sarbacane. Sinon, rapidement, parce que je vois le temps qui file, Le cœur des femmes d'Aude de Permilio, j'en ai parlé un peu ici à l'émission, je crois, une BD sur l'acte gynécologique qui questionne la façon dont on traite le cas des femmes, dont on l'accompagne dans la dynamique d'accouchement, qui soulève des questions qui sont fondamentales à travers deux parcours humains que je trouve très intéressants aussi, qui nous amènent à une réflexion par le prisme du soignant, par la manière dont eux aussi se positionnent face aux soins qu'ils sont appelés à faire. Donc, bref, vraiment un superbe, superbe récit et surtout un grand questionnement important d'Aude Mermillot avec cette BD. Sinon, J'ai tué le soleil de Winchlus, une lecture que nous a proposé Marco Duchesne en club de lecture un peu plus tôt cette année. Donc, on a dû en parler pratiquement 20 minutes. Je ne reviendrai pas trop dans le détail, mais sincèrement, une BD coup de poing ce que j'ai aimé particulièrement dans cette BD-là, c'est la gestion scénaristique. Dans la mesure où on commence dans un certain récit, éventuellement, il y a un point de bascule qui nous amène dans un autre type de récit. Et éventuellement, il y a un point de bascule qui nous amène à se retrouver dans un autre type de récit. Et à chaque point de bascule, on est décidé de revenir en arrière pour revoir ce qu'on a vu en fonction de la nouvelle information qui nous est donnée, qui transforme un peu la nature des personnages qu'on a croisés et leur motivation profonde. Et on peut le faire à plusieurs reprises dans cet album-là. Donc vraiment, d'un point de vue scénaristique, là, c'est maîtrisé et ça donne un produit qui est très, très solide à découvrir si on ne vous avait pas déjà convaincu en club de lecture. Sinon, en matière de bande dessinée biographique, j'y vais du côté international avec Queenie, la marraine de Harlem. Donc, un récit qui nous amène à la rencontre de Stéphanie Sinclair, une femme plus grande que nature qui règne sur un empire criminel à la fin de la Prohibition et qui nous amène un peu dans les dernières années, si on peut dire, de cet empire-là qui fait face aux Italiens qui tentent de prendre le contrôle des affaires de Harlem. Donc, ça nous amène évidemment dans le contexte de récits de gangsters qu'on aime toujours un peu. Ça reste un imaginaire assez sympathique. On nous dresse un beau portrait de personnage avec quelques allers-retours dans le passé qui nous permettent de voir aussi la nature des épreuves que cette femme-là a déjà traversées au fil de son parcours et de la motivation et de la fermeté qui a dû l'amener ou pouvoir l'amener à se placer où elle était à l'époque où elle s'est rendue là également. C'est quand même une figure, ma foi, hors du commun, en fait, d'autant pour l'époque. Et c'est bien fait, c'est bien amené, bien contextualisé, bien dessiné aussi. Donc, vraiment un récit documentaire que j'ai trouvé très, très solide du côté d'Aurélie Lévy et d'Elisabeth Colomba. C'est chez du côté d'Anne Carrère. On poursuit avec L'âge d'or, donc tome 2, sorti fin 2020, c'est arrivé au Québec un peu après. Donc, je pense que c'est un album qui avait beaucoup marqué pour son premier tome, en fait, d'un point de vue visuel, d'un point de vue graphique. Et je pense que c'est encore la même chose pour le deuxième, dans le fond. J'avais envie, c'est comme un peu, d'ailleurs, un autre titre qui arrivera tantôt. Donc, j'avais envie de souligner l'existence de ces titres-là. Et en fait, pour ce qui est de l'âge d'or, de nous rappeler l'existence de cette série, parce qu'il y a tellement de bonnes BD. Et celle-là, je veux dire, le premier tome était tellement bon, nous avait tellement scié les jambes. Et bien, c'est toujours plaisant de savoir que le deuxième, finalement, a bien amené, a bien conclu cette proposition-là. Et donc, L'âge d'or, tome 2, donc de Pedroza et Roxane Morel, à découvrir, si ce n'est déjà fait, là, vraiment deux tomes hallucinants et d'un point de vue visuel. Je pense que j'ai beaucoup été là-dessus, d'ailleurs, dans les BD internationales, vers des récits qui, visuellement aussi, m'ont scié les jambes. Je parlais de René au bois dormant tantôt. L'âge d'or, c'est le cas aussi. Et je pense qu'on peut dire la même chose dans la tête de Sherlock Holmes, le tome 2. Sincèrement, je ne sais pas trop pourquoi le tome 1 n'avait pas été dans mon palmarès l'année dernière. Alors, je me suis dit, on va se rattraper. Cyril Hieron, Benoît Dahan, chez Anne Camotte, qui nous offre un récit d'enquête hallucinant, mais surtout dans une mise en image. Wow! Là, encore là, on le prend, on feuillette, et juste en feuilletant la BD, je veux dire, on tripe déjà et on n'a rien lu. Un défi de mise en scène, de mise en image qui est magnifique. Et en plus, le récit, quand on tombe dedans, le récit est bon. Alors, c'est évidemment des enquêtes de Watson et Sherlock Holmes. Dans le tome 2, c'est sur un magicien chinois et ministre des colonies britanniques qui est visé. Bon, bref, mais le récit fonctionne et surtout visuellement, là, c'est ne pas feuilleter cette BD-là, c'est un peu se priver de quelque chose. J'ai l'impression, là, tellement c'est magnifique. Et je vais rapidement avec mes deux dernières sélections. Je dirais, je ne sais pas à quel point c'est des coups de cœur qui vont durer dans le temps, dans la mesure où peut-être que, justement, dans une éventuelle revision du top 9, il pourrait se retrouver un peu mis de côté. Mais bon, allons-y avec le Moon River de Fab Caro. Pourquoi? Parce que c'est tellement niaiseux. Parce que c'est tellement, je veux dire, une BD sur rien. Inutile, mais complètement assumée. Absolument assumée. Et je veux dire, finalement, de voir Fab Caro avec tout le succès qu'il a, nous arriver avec un objet comme celui-là qui est aussi décontenancant, qui est aussi joue autant avec le quatrième mur, qui est autant conscient de son aspect insignifiant. Donc bref, c'est un objet, c'est un ovni, cette BD-là. Je ne sais pas exactement, autre des fans finis de Fab Caro comme je suis, à qui cette BD-là va plaire, mais pour ceux qui aiment, je pense qu'ils vont aimer à fond. Et pour l'instant, donc ça mérite largement la 8e place de mes coups de cœur internationaux. Et en 9e, bien, c'est un peu l'espoir, en fait. J'ai avec L'âge d'or, tome 2, dans la tête de Sherlock Holmes, tome 2, bien, on a des deuxièmes tomes qui ont avalisé que le tome 1 n'était pas une erreur. Donc, le tome 6 de Black Sun nous dira, l'avenir de ce tome-là sera dicté, j'ai l'impression, par le tome 7. Et pour l'instant, vraiment un retour en forme de cette BD-là et dans cet univers-là. Que j'aime d'amour depuis que je l'ai découvert. Alors, Joan Diaz-Canaletz et Joanjo Guarnido qui reviennent en belle forme, je crois, je l'espère, et ben, on verra qu'est-ce qu'il y en est au final de tout ça, mais pour l'instant, là, j'étais très, très content de voir ce duo-là revenir, et ben, j'ai choisi de le mettre dans ce petit palmarès pour exprimer mon plaisir. Alors, du côté international, donc, j'ai parlé de Jour de sable, de René au bois dormant, du cœur des femmes, de J'ai tué le soleil, de Queenie, de L'âge d'or, tome 2, Dans la tête de Sherlock Holmes, tome 2, Moon River et Black Sad, tome 6. Alors, voilà pour ce rapide tour de roue. J'espère que ça vous a plu. J'espère que peut-être à la lecture de tout ça, bien, il y aura des albums que vous aurez envie d'explorer, que vous n'aviez pas encore exploré. Si vous avez d'autres albums incontournables aussi, n'hésitez pas à les partager sur Facebook, Facebook-la vie en BD, ou encore via lavieenbd.com. Vous avez l'adresse courriel de l'émission qui est là également. Et j'en profite pour vous rappeler que l'ensemble des émissions des 11 dernières années sont également disponibles pour écoute en différé. Alors, ben voilà, c'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine et on se dit à très bientôt.